Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Christophe Verlet, initiateur du projet des pavés de mémoire en France. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Dans plusieurs pays européens et en Argentine, la mémoire des victimes du nazisme est rappelée par des pavés dorés encastrés dans le trottoir devant leur dernier domicile. Ces pierres, que l'on appelle en allemand Stolperstein, littéralement des pierres sur lesquelles on peut trébucher, sont la création d'un artiste allemand, justement, Gunther Demnig. Chaque cube scellé au même niveau que les autres pavés du sol rappelle le nom et le destin d'une personne assassinée par le régime nazi. Depuis 1993, plus de 70 000 pavés ont été posés et vous êtes l'initiateur du projet des pavés de mémoire en France et plus particulièrement à Paris. Comment vous êtes venu à jouer un rôle dans cette histoire ?
Alors, j'étais étudiant en Allemagne, à Bamberg, en Bavière. Et donc, c'est là que j'ai vu mes premiers pavés. Et j'ai tout de suite été, bien sûr, interrogé. C'était d'ailleurs le but du projet. Oui. Et ça a vraiment fonctionné sur moi. Donc, je me suis dit, voilà, tiens, quelque chose d'intéressant pour la mémoire. J'ai vu à quel point ça attirait Monsieur Tout-le-Monde, ça attirait surtout aussi les enfants. Je travaille beaucoup pour la transmission et je pense qu'effectivement, c'est un projet qui peut être accaparé par les enfants. Et donc, je me suis interrogé sur ce pavé qui était ces pavés que j'ai vus là-bas. Et j'ai donc demandé si je pouvais poser pour un prisonnier de guerre français qui était mort en Allemagne, à Bamberg justement. Et on a donc posé ce pavé à Bamberg. Et évidemment, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait le poser aussi en France, ce qui a été fait donc un peu plus tard.
Alors, un travail mémoriel, hein, vous venez de le dire, de transmission pour les jeunes et pas seulement. À Paris, il y a notamment le mur des noms où l'on peut se recueillir. Il y a aussi des plaques qui sont apposées devant les écoles, parfois dans des parcs. Qu'est-ce qu'apporterait de plus la pose de ces pavés de mémoire sur les trottoirs ?
Alors, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie de dire tout de suite, effectivement, le mur des noms a sa légitimité, elle est incontestable. Les plaques, certainement aussi. Simplement, le pavé, il est dans l'espace public. Donc, il est beaucoup plus accessible à tout le monde. Très souvent, les plaques sont dans les cours intérieurs ou dans les écoles. Donc, il faut pouvoir y accéder. C'est la même chose pour le mur des noms. Et donc, les familles qui veulent un Stolperstein défendent ce droit d'avoir eux aussi leur manière à eux de commémorer. Ils trouvent ce projet intéressant et surtout, ils ont envie d'y adhérer. Et donc, ils estiment eux aussi avoir le droit de commémorer comme bon leur semble.
Il y a sans doute un argument que plusieurs descendants de victimes de la Shoah vous ont peut-être opposé. C'est le fait de piétiner, de marcher sur le nom et la vie de leurs aïeux décédés. Quand on vous dit ça, que c'est dérangeant, qu'est-ce que vous pouvez leur argumenter ?
Alors évidemment, il faut respecter la sensibilité de chacun. Si ça pose un problème à quelqu'un, à une famille, effectivement, de cet acte de marcher dessus, il faut le respecter. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe-là. Toutefois, il faut savoir que ce n'est pas une tombe. On ne marche pas sur un corps, on ne marche pas sur une mémoire. La deuxième chose surtout, c'est que souvent cet argument m'est opposé par des gens qui n'ont pas connu le projet ou qui ne l'ont pas vu. Parce que quand on vit le projet, quand on le voit dans les villes en Allemagne ou dans d'autres pays, on se rend compte que les gens, quand ils voient le pavé, ne marchent pas dessus. Il brille, donc il est visible, et très souvent il interroge, donc les gens s'arrêtent et se penchent, s'inclinent et regardent ce qui a marqué sur ce pavé. Et là, d'accord, on se souvient, on prononce le nom. Le principe des Stolperstein, c'est ça. Le nom de celui qui est prononcé n'est pas oublié. Quand on prononce le nom de quelqu'un, il n'est pas oublié. Et c'est ça le principe. Et donc, en fait, quand on se penche, on s'incline, on rend le respect. La personne qui marche dessus, je peux vous assurer, ne l'a pas vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un voir le pavé, faire demi-tour et venir marcher dessus. Ça n'existe pas. L'autre avantage qu'il a à ce pavé, c'est qu'il est très petit. Il fait 10 cm sur 10. Il n'a aucun intérêt à être vandalisé. D'ailleurs, ils ne sont pas vandalisés. Aller sprayer un Stolperstein d'une croix gammée, ça ne sert à rien, parce que ça ne se voit pas. Et médiatiquement, ça ne porte pas. Donc, ça n'intéresse pas les gens qui veulent faire outrage. Une plaque, c'est plus facile. Une plaque, c'est à hauteur de vue. Quand on la tag, on la voit.
Ou on la casse aussi,
c'est déjà arrivé. Alors que les Stolperstein, c'est excessivement rare. Et lorsque ça arrive, qu'un Stolperstein soit, admettons, décelé, ce qui est très compliqué parce que le scellement est très fort, si ça arrive qu'il soit abîmé, eh bien, il n'a fait aucun tapage médiatique. On n'en parle pas du tout. Et le pavé est remplacé dans les 48 heures, comme si de rien n'était. Voilà. Donc, on évite, en fait, la polémique autour des Stolperstein.
Alors, pour évacuer tous les arguments qu'on pourrait vous opposer, les critiques, je vous en émettrai une dernière. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, par les temps qui courent, il y a encore un antisémitisme latent, de dire, eh bien, voilà, encore une action mémorielle pour la mémoire des Juifs en France? Est-ce qu'on n'en fait pas trop?
Alors, c'est là où le projet est vraiment très complet, c'est-à-dire que les Stolperstein ne sont pas uniquement que pour les victimes juives. Les Stolperstein sont posés pour toutes les victimes du nazisme, des déportés. Il y en a
alors
eu.
Alors, vous pouvez les lister comme ça, au
bien
moins,
sûr,
ça sera fait.
Des déportés, il y a eu des non-juifs, évidemment. Donc,
des Roms.
Politiques. Oui. Ensuite, on a effectivement les Sinti Romains, donc les Tziganes, Manouches, qu'on appelle chez nous. Il y a, bien sûr, les handicapés dans l'opération T4, les homosexuels. Il y a les témoins de Jéhovah, les francs-maçons, bref, la liste est longue, malheureusement, des victimes de la barbarie nazie. Et donc, le projet n'est pas uniquement pour les Juifs. Là, je vous ai parlé avant de la pose d'un Stolperstein pour un prisonnier de guerre. Il y en a en Vendée qui ont été posés, les premiers en France, où je n'étais d'ailleurs pas l'initiateur, hein, les premiers pavés en France, ont été posés par un ancien STO qui voulait honorer ses compatriotes et qui avait fait ça... mais de manière plus localisée, on va dire.
Alors, vous parlez des pavés en Vendée. Il y a de nombreux pavés en Alsace. Vous avez d'ailleurs organisé un colloque et les actes viennent de paraître dans un ouvrage passionnant, Stolperstein, présence juive en Alsace, devoir de mémoire, 30 avril, 1er mai 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler de la pose de ces Stolperstein et puis du colloque qui en a suivi?
Bien sûr, donc Muttersols et Erlisheim Précolmar ont été les précurseurs, on va dire, pour les grandes poses maintenant qui s'annoncent en France, parce que depuis il y a eu Rouen, il y a eu Strasbourg tout de suite dans la foulée, donc des grandes villes quand même. Hein. Et voilà, nous avons posé à Muttersols et Erlisheim pour toute la communauté. C'est-à-dire qu'avec le consistoire du Haut-Rhin et le consistoire du Bas-Rhin, nous avons pris la décision de poser pour aussi des victimes qui n'avaient plus de famille. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, s'il n'y a plus de famille? Est-ce qu'on peut prendre l'initiative
oui.
d'en poser quand même?
Oui.
Est-ce qu'ils seraient d'accord? Est-ce que les familles seraient... On ne peut pas savoir. Donc moi, je me rapproche du consistoire, du département, je leur présente le projet. Ils y adhèrent, on y va. Ils n'y adhèrent pas, on n'y va pas. Voilà. C'est toujours, il faut toujours voir le Stolperstein comme une action collective qui se fait non pas dans la concurrence mémorielle, mais vraiment dans l'échange, dans le partage. Parce que le seul but de cette action, c'est d'honorer les victimes. Tout le reste, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est honorer les victimes. Alors après, derrière, et c'est là où le projet est vraiment superbe, c'est que derrière, on développe toute une pédagogie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Celles de Muttersols et d'Erlisheim Précolmar en sont la preuve, il n'y a pas de pause sans y adjoindre les enfants, les écoles. Donc à Muttersols et à Erlisheim, il y a eu les écoles qui ont participé. Elles sont d'ailleurs parrains de pavé. Et on voit là donc que les enfants ont pu s'accrocher au projet parce que depuis, chaque fois qu'ils vont à l'école, sur le chemin de l'école, ils déposent une pierre, ils déposent une fleur. Ils se sont attribuer cette mémoire alors qu'ils n'en étaient pas du tout conscients. On a posé ici, ces deux villages, la totalité de la communauté juive a disparu de l'espace public. Les gens aujourd'hui ne savent plus qu'il y avait des juifs dans ces villages. Maintenant, ils le savent. Pourquoi? Parce qu'ils les voient au quotidien. Vous auriez mis une plaque à l'ancienne synagogue. Qui va encore à l'ancienne synagogue? Vous voyez? Donc c'est là où le projet prend tout son sens. Et derrière tout ça, on fait des actions pédagogiques bien plus fortes encore. La preuve se colloque. Qui a rassemblé énormément de gens et qui a permis donc de rappeler ce qu'est la présence juive dans ces villages et particulièrement en Alsace. Mais tout ça peut se multiplier sur d'autres villes, bien évidemment.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de l'historien Christophe Verlet qui nous parle du projet des pavés de mémoire en France. Vous nous parlez de ces régions de France et finalement, qu'est-ce qui bloque à Paris?
Alors, c'est la grande question. Oui. J'ai demandé un rendez-vous à Madame Laurence Patrice, qui est donc chargée du monde combattant et de la mémoire. Et je n'ai pas obtenu de rendez-vous et j'ai simplement obtenu une fin de non-recevoir avec une réponse qui dit que voilà, beaucoup de choses sont faites à Paris, ce qui est indéniable. Beaucoup de plaques ont été posées, il y a eu le projet des plaques dans les écoles, il y a bien sûr le mur des noms, et donc elle s'est retranchée derrière la même décision du mémorial de la Shoah, qui dit également qu'il est opposé au projet, avec comme seul argument toujours le même, celui du fait qu'on marche sur ces pavés. Alors nous, ce qu'on défend évidemment, c'est la liberté de commémorer. Voilà, on trouve ça très bien que plein d'actions soient faites. Les Stolpersteine, ça existe dans 22 pays d'Europe, dans toutes les capitales quasiment. Et Paris serait donc la seule capitale européenne à ne pas vouloir de Stolpersteine. Alors on nous rétorque que eh bien, Paris, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Et qu'à Paris, il faut maintenant passer à autre chose. 75% des Juifs ont été sauvés à Paris. Ça fait partie de la réponse qui m'a été donnée. Ce qui, je peux comprendre, pour certaines familles, est insupportable. Parce qu'eux disent, mais que fait-on des 25%? Et là, la mairie rétorque, effectivement, eh bien, nous faisons beaucoup de choses et nous avons déjà beaucoup fait. Mais les Stolperstein, il n'en est pas question.
Alors, de là, une question aussi, peut-être, qui est liée ou pas, hein, vous allez nous le dire, c'est les financements. Qui financerait ces pavés de mémoire, leur pose? Est-ce que le projet n'est pas titanesque aussi de retrouver les noms, les adresses, de réaliser les pavés, d'obtenir les accords des familles ou pas, hein, de laisser les dans le sol, l'entretien par la suite? Comment fonctionnent toutes ces questions pratiques et financières?
Alors, c'est effectivement un sujet qu'il faut aborder. Pour chaque victime, c'est un pavé. Donc, il n'y a pas d'œuvre collective, c'est-à-dire une victime, un pavé. Chaque pavé a un coût, effectivement, hein, qui est donc géré par une fondation, qui est la fondation Spuren en Allemagne, donc qui est une fondation d'intérêt public qui est très contrôlée, et chaque pavé coûte 132 euros. Ces 132 euros sont pris en charge, donc soit par la famille, si elle le désire, ou soit par une institution, ou des privés, des mécènes, ou une école, par exemple, je vous en ai parlé avant. Mmh. Et donc, si vous voulez, le principe, c'était à la base, l'artiste, quand il a fait ça, le pavé est surmonté d'une plaque de laiton, le laiton noirci. Et le principe, c'est que le parrain, celui qui a financé le pavé, s'engage chaque année à revenir sur le pavé et à le polir pour qu'il brille à nouveau, c'est-à-dire raviver de nouveau la mémoire. Et ça, c'est fait donc régulièrement. Certaines communes décident de le faire par leur service technique, d'autres sont polis beaucoup plus souvent parce que bah, des personnes se sont attribuées l'envie de les polir. On voit rarement des Stolperstein ternes très longtemps parce qu'on a bien compris comment ça fonctionne. Et donc, ces 132 euros, ça permet de payer le pavé, donc sa fabrication. Et l'artiste vient les poser lui-même, en tout cas pour les premiers. Et c'est tout ce que ça englobe comme prix. Alors, et là j'insiste quand même, pour Paris, nous, étant donné la situation un peu compliquée, nous nous sommes engagés à ce que, pour l'instant, nous ne parlions pas de pavés posés pour des gens qui n'ont plus de famille, mais uniquement à la demande des familles, ce qui permet déjà d'une d'avoir les adresses certaines, d'être certain que c'est là qu'elles habitaient, parce qu'il y a encore les témoins vivants, et c'est une volonté de la famille, ce n'est absolument pas une volonté de Stolperstein de vouloir poser, ou de la fondation Günther Demnig-Spuren de vouloir poser, c'est vraiment les familles.
Est-ce qu'à Paris, vous êtes soutenu par les familles? Comment surmonter ce blocage? Qu'est-ce qu'il reste à faire?
Alors, le problème, c'est que c'est sur le domaine public, donc la gestion du domaine public appartient à la ville de Paris, non pas à ces mairies d'arrondissement, parce que sinon, on passerait par chaque maire d'arrondissement pour demander l'autorisation. Mmh. Comme c'est le domaine public, ça passe automatiquement par une autorisation de la ville de Paris. Et donc, comme Madame Patrice y est opposée, il n'y a à ce jour aucune chance d'y parvenir. Alors,
une pétition a été lancée, je crois. Combien de signatures a-t-elle recueilli?
Elle a un mois, donc ouais. Elle est assez récente. on doit commencer à toucher les 1000. Il y a aussi un groupe Facebook qui a été mis en œuvre, qui s'appelle Pavé de mémoire, Stolperstein à Paris. Et donc, celui a grossi. Et nous sommes à un mois. Donc, voilà, c'est quelque chose qui vient de démarrer à la demande d'une famille. Donc, il faut savoir que nous avons Yvette Anna, qui habite à Amsterdam, qui a créé un groupe qui s'appelle Stolperstein à Paris depuis 2012. Elle a demandé les autorisations de pose pour un Stolperstein pour sa tante. Et en fait, si moi, je suis rentré dans ce combat de Paris, parce que pour moi, Paris n'est pas capitale. Elle l'est, mais pas dans le projet. Pour moi, Paris n'est pas capitale. Mais c'était cet attachement que j'ai à Yvette, qui m'avait sollicité il y a 7 ou 8 ans, pour me dire, aidez-moi, je n'habite pas en France, je maîtrise mal la langue, aidez-moi, aidez-moi.
Elle n'est pas capitale, on va préciser quand même pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que le travail de mémoire est plus que convenablement réalisé par les éléments dont on a parlé tout à l'heure.
Tout à
le
fait.
Mur des noms, les plaques, etc.
Complètement. Ouais. Et d'autres, on voit bien que dans toute la France, d'autres villes y vont de bon cœur. Et donc, voilà, si Paris continue à s'obstiner à ne pas vouloir, ce qui, moi, je défends, c'est vraiment ces familles qui attendent. La maman d'Yvette Anna est très âgée maintenant. Elle attend de voir ce pavé pour sa sœur. Elle y tient avec le cœur. Elle y met ses tripes. Et je trouve ça dommage qu'on ne lui permette pas de réaliser sa volonté, finalement. C'est ça.
Alors, si des auditrices et des auditeurs de Radio Shalom vous écoutent et ont de la famille et souhaiteraient s'associer au projet, comment on vous contacte? Comment on vous aide? Comment on vous soutient? Comment aussi, peut-être, certaines personnes qui sont des enfants ou des petits-enfants de déportés voudraient vous dire qu'ils ne sont pas d'accord? On peut ouvrir le débat et le continuer, c'est ce qu'on a tenté de faire. Comment on vous contacte concrètement?
Alors, comment on me contacte concrètement? Donc, on me trouve assez facilement, normalement, sur Internet, Christophe Verlet. Alors, bien évidemment...
Il faut les plaire. Hein.
Il faut les plaire, W-O-E-H-R-L-E. Le groupe Facebook qui s'appelle donc Pavé de mémoire, Stolperstein en France, est relativement facile à trouver. Là-dessus, il y a mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je suis en général assez facile à joindre. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Je reste disponible pour tout et aussi pour discuter des achoppements, voilà, des choses qui pourraient déranger, effectivement, et que je respecte. Attention, c'est très important. Je pense que la sensibilité de chacun doit être respectée, et ceux qui n'en veulent pas, il n'est pas question d'imposer ce projet.
Merci beaucoup, Christophe Verlet, d'avoir parlé avec nous de ce projet, hein, des pavés de mémoire en France, dont vous êtes l'initiateur. Eh bien, on reste en contact et on voit comment évoluera ce dossier. Bonsoir et bon courage.
Merci beaucoup.